le magazine qui touche votre vie. Chers auditeurs, bienvenue à Être et Avoir, votre magazine économique hebdomadaire dans la série C'est la vie. Et au microphone, Charles Hugo Boucher en compagnie de M. Jean Campeau. Bonjour, M. Campeau.
Bonjour, M. Boucher. Je suis toujours heureux de retrouver nos auditeurs et nos auditrices.
Avant de débuter, M. Campeau, j'aimerais revenir sur une émission qu'on a fait il y a deux semaines. Oui. Nous avions reçu M. François Corbeil des Fonds PD qui était venu nous entretenir sur les nouvelles solutions de placement à revenus fixes. On a eu quelques commentaires suite à l'émission des gens qui ont perdu le fil à un moment donné. On a donné durant cette émission-là beaucoup de chiffres et d'informations. Il y a des gens qui ont qui se sont plaints d'une certaine façon d'avoir perdu le fil. Et donc, ce qui était important de retenir de cette émission-là, c'est que dans la période de très bas taux d'intérêt où on est présentement, ben, il y a des gens qui ne se reconnaissent pas là-dedans. Et il existe maintenant des nouveaux produits. Puis le message qu'on voulait lancer, ben, c'était de dire aux gens, ben voilà, il existe ça. Éveillez-vous, posez des questions, informez-vous auprès de vos institutions financières et peut-être que vous allez être heureux des nouveaux changements qui sont apportés.
Parfait, mais moi je voudrais remercier ces gens-là là, qui ont pris le temps d'appeler à la station Radio Ville-Marie pour faire part de leurs commentaires. C'est comme ça qu'on vit, nous autres, vous et moi, M. Boucher. Oui. Et quand on peut s'améliorer, on peut s'améliorer.
Voilà.
Alors, si les gens ont des suggestions à nous donner, on est ouvert.
Même qu'on demande. on demande aux gens.
Si on peut être plus intéressant encore, ben, tant mieux, puis on va tâcher de mieux s'aligner.
Et si vous en avez la chance, envoyez un courriel à Radio Ville-Marie ou téléphonez-nous avec des idées de sujets ou des commentaires et on les lit tous. Et bon, aujourd'hui, on va s'intéresser aujourd'hui, on touche un sujet qui, ma foi, est rarement abordé dans les médias. M. Campeau, on va parler d'invention et surtout des inventeurs.
Qui sont souvent négligés.
Très souvent négligés, même que, c'est pour ça que je vous dis, on entend rarement parler dans les médias. Mais nous, on reçoit aujourd'hui un inventeur, ou en tout cas, quand on dit inventeur et on regarde au ciel, il se demande s'il y en est un vrai, un
peu. En tout cas, il participe.
Et ben d'ailleurs, il a été étudiant, en tout cas, je vais faire votre parcours un peu là. Vous avez été étudiant au grand séminaire en philosophie, où vous avez abordé à ce moment-là la métaphysique,
donc
la physique est venue par la suite. Vous avez fait votre maîtrise en droit à Paris.
Exactement.
Et suite à ça, auparavant, vous avez fait votre baccalauréat spécialisé en sciences politiques à l'UQAM.
À Montréal, oui.
Vous avez fait des études aussi au lycée français à Londres.
Absolument.
Et là, vous avez commencé à toucher à la physique, qui est votre intérêt aîné.
Absolument.
Et même c'est là que vous avez eu vos premières intuitions, vos premiers intérêts face au moteur rotatif.
Absolument.
Et là, on n'en dirait pas plus loin dans l'émission. Et c'est grâce à Radio Ville-Marie, où vous aviez probablement fait une émission, où vous êtes affilié à un vrai inventeur ou le vrai inventeur du moteur rotatif. Monsieur Jean Rémillard, bonjour. Vous êtes notre invité aujourd'hui.
Bonjour Monsieur Boucher, bonjour Monsieur Campeau.
Bonjour.
Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent aussi.
Ben oui.
Monsieur Rémillard, vous êtes inventeur et on parlera un peu du travail, du projet sur lequel vous planchez présentement. Mais entretenez-nous donc sur les difficultés des inventeurs individuels. Quand on dit individuel, qu'est-ce qu'on veut dire? Un inventeur individuel, il existe quoi d'autre?
Il existe des institutions, des compagnies qui font des brevets à tour de bras. Hein. Quand on travaille pour une compagnie dans la recherche, nécessairement, on arrive avec de nouvelles idées, de nouveaux produits. Et les entreprises, habituellement, se protègent en déposant un brevet. Okay. Mais pour un individu, vous et moi et n'importe qui a une bonne idée et qui veut la mener à terme, éventuellement la commercialiser, il y a tout plein d'embûches avant d'arriver à vraiment faire marcher une entreprise qui tienne la route. C'est pas tout d'avoir une bonne idée. Même une personne géniale peut se casser le nez comme c'est pas possible devant les difficultés d'arriver à la solution commerciale et tout. En fait, on a eu des discussions récemment avec des responsables fédéraux qui nous disent qu'il y a un brevet sur 100 qui fait ses frais. Un sur 100 seulement. Ça, c'est quand on est arrivé au stade du brevet, là.
Ça veut dire quoi, là, qui fait ses frais? Les 99 euros sont mis à la poubelle?
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'argent pour aller au bout, pour commercialiser, puis finalement rentabiliser tout l'investissement qui a été fait, non seulement pour obtenir le brevet, mais pour développer le produit, développer le concept, développer le produit avant d'arriver au brevet. Hein, parce que c'est un investissement personnel souvent considérable.
Mm-hmm.
Et en fait, il ne suffit pas de se lever un matin avec une bonne idée et dire, tiens, ah, je vais aller breveter ça. D'abord, une idée, ça ne se brevette pas. Il faut toujours quelque chose de matérialisable. Il faut présenter quasiment une machine, une application de l'idée. Okay? Si on n'a pas ça, c'est pas la peine d'aller chercher un brevet.
Là, vous dites, une idée ne se brevette pas.
Absolument.
Pourtant, pas une idée, ça se fait voler.
Oui, parce que les idées circulent facilement, librement, et est-ce qu'on peut dire qu'on a volé une idée de quelqu'un? C'est difficile, hein? Ça fait partie du spirituel, puis le spirituel, il est partout, lui. Donc, c'est très volatile. Et pour vraiment, là, donner une forme à une idée, il faut un produit. Hein? Il faut la concrétiser, son idée. Il faut dire qu'aujourd'hui, on peut breveter même des méthodes de travail. Là, c'est déjà beaucoup plus près d'une idée. Mm-hmm. Mais vous prenez des organisations qui mettent au point une stratégie de commercialisation qui est différente, hein, qui est originale. Aujourd'hui, aux États-Unis, on peut même breveter ça. Autrefois, on pouvait, c'est très, très difficile. Mais aujourd'hui, on peut. Mais en général, on brevette des produits. Et il y a toute une démarche à suivre qui fait que l'inventeur, lui, il est pris tout le temps entre les besoins de protéger son invention, donc à recourir à un brevet, tout ce qu'il faut faire pour améliorer son produit, faire des prototypes et tout ça, c'est qu'il est pris entre tellement de choses, d'obligations pour arriver à un résultat, que la plupart n'y parviennent pas.
Mais qu'est-ce que ça donne de breveter un produit?
En fait, il y a du pour et du contre. Beaucoup d'entreprises ne brevettent pas. Quand un produit a une vie courte, c'est quasiment pas la peine de breveter parce qu'il faut le mettre en marché très rapidement et une entreprise sait que 2 ans après, ça va être dépassé. Donc, on met en marché tout de suite, puis on va chercher l'argent et puis ensuite de ça, on passe
en marché. Et au diable, donc, quelqu'un nous copie.
C'est pas grave, de toute façon, il arrive deuxième, etc. Bon, pour les grosses entreprises, c'est pas un gros problème. Pour un individu, le brevet, d'une part, c'est une déclaration au monde entier qu'on a un nouveau produit. Alors, quand on le déclare, déjà, c'est une façon de dire aux autres, il y a là un potentiel. Ceux qui sont mieux équipés que nous vont être capables d'exploiter le potentiel. Par exemple, les Japonais et les Chinois, eux autres, ils ont des gens qui passent leur vie dans les instituts de brevets de tous les pays du monde. Ils vont chercher les idées et les copier chez eux. Okay?
Puis les gens ont le droit de faire ça.
C'est-à-dire, écoutez, ils n'ont pas le droit normalement, juridiquement.
Ils ont le droit moral, le droit légal.
Bon, mais ils s'en foutent de ça. Ils sont en place, puis c'est la loi du plus fort. Mm-hmm. Même ici, localement, il y a l'inventeur sauf pantalon. Hein? Bon, on met dans les autos là, pour ne pas salir le pantalon quand on conduit l'hiver ou etc. Ben, ce gars-là, il s'est fait copier. Puis c'est par une grosse compagnie canadienne. La grosse compagnie a dit, pas de problème, poursuivez-moi. Mais vous allez perdre votre chemise. Okay? Puis dans le fond, c'est ça qui s'est produit. Alors, c'est ça.
Il a tapé son pantalon, puis il a perdu sa chemise.
Désolé. C'est mieux que de perdre ton pantalon.
Voilà. Alors, donc, c'est pas facile, disons, d'être un inventeur qui va connaître un succès commercial après coup. Bon, par ailleurs, le brevet a des avantages. C'est celui, quand on a les moyens, d'empêcher une personne ou une entreprise de nous copier. Donc, c'est un droit négatif, en ce sens que empêcher l'autre d'agir dans notre domaine, qu'on se réserve. Mais là, pour vraiment empêcher l'autre, il faut avoir des moyens.
Pas indéfiniment, ben, il ne peut pas, le brevet. Là.
Un brevet a une durée de vie qui est variable selon les pays.
Oui.
Ou ici, c'est autour de 20 ans. Là.
Ben, excusez-moi, si vous protégez au Canada, par exemple, avec votre brevet, est-ce que c'est bon aux États-Unis aussi?
Non.
Donc, quelqu'un des États-Unis peut vous copier.
Absolument. C'est pour ça que...
À quoi ça sert?
Ben, il y a des inventions qui ont une portée plus locale, donc on se contente de breveter localement.
C'est ça qu'il faudrait breveter au Canada aux États-Unis, un petit peu.
Mais disons que quand on passe au bureau des brevets du Canada, on a le choix de breveter dans X pays, puis au-delà d'un certain nombre, je ne sais pas si c'est 4 ou 5, là, on peut breveter mondialement, disons, dans tous les pays, puis ça coûte le même prix. Bon, donc, pour les inventions majeures, c'est important de breveter mondialement. Mais encore là, il faut avoir une organisation pour suivre les
ça coûte de l'argent, breveter?
Ah oui, c'est sûr. Ça ne coûte pas une fortune de prime abord. C'est quelques centaines de dollars. Mais il faut entretenir le brevet. Chaque année, il faut déposer un certain montant. Et en plus de ça, quand il y a plusieurs pays qui sont en cause, il faut breveter dans chaque pays.
Il n'y aurait pas un conseiller légal qui a nécessairement les honoraires pour faire ça? Quoi.
Bon, c'est dire que c'est encore là ambigu, parce que ça coûte cher quand on passe par un tiers, et on n'est pas toujours assuré à 100% qu'il n'y a pas des fuites dans le système. Hein? Bon.
Mais est-ce qu'on peut faire ça soi-même?
On peut le faire soi-même, absolument. Les formules sont là. Puis on peut, effectivement, si on a une certaine capacité de rédaction, capacité de dessiner, puis bien le présenter, on peut le faire soi-même. Ben, c'est ce que nous avons fait, nous, pour notre premier brevet. On n'a pas eu recours à des spécialistes en brevetage. On l'a fait nous-mêmes. Puis on l'a eu, il n'y a pas de problème là.
Bon, mais si vous étiez copié demain matin, vous devriez vous défendre?
Absolument. C'est-à-dire que... Là, on a le choix. Dans certains cas, le fait d'être copié, c'est une consécration. Donc, on peut laisser faire le copieur, puis ensuite de ça, lui dire, ben, écoutez, vous allez nous donner des droits, puis si vous voulez pas, ben, on va aller en cours.
Mm-hmm.
Et d'une certaine façon, c'est bon pour l'inventeur, ça. Mais il faut, à un moment donné, être capable de dire, vous allez nous payer des droits. Et si on n'a pas les ressources financières pour aller en cours, puis ça peut durer des années, ça peut durer 10 ans, des procès comme ça. Alors là...
Donc, est-ce qu'on comprend bien, là, les problèmes de l'inventeur individuel sont énormes, parce qu'il faut qu'il soit très riche pour se suivre. Et généralement, l'inventeur n'a pas ces ressources-là. Là.
C'est exact.
Mais pas ça, c'est même s'il les avait, c'est de l'argent dépensé.
Oui, c'est de l'argent.
Et sans être sûr que ça va rapporter.
Et c'est de l'énergie aussi. Il faudrait avoir sa tête, finalement. Voilà, l'inventaire, il peut difficilement tout faire.
Bon. On va aller à la pièce musicale, une pièce qui est interprétée par Vic Rogel, une chanson de Claude Dubois, Femme de rêve.
Radio Villeneuve.
En compagnie de Charles-Hugo Boucher et de Jean Campeau.
Nous sommes de retour à être et à voir notre invité aujourd'hui, Jean Rémillard, qui est un inventeur, même si parfois il n'en est pas convaincu, mais en tout cas, c'est un mot qui est peut-être moins dur que, ou moins précis que vous le pensez.
Disons plutôt que je travaille avec des inventeurs.
Ah, voilà.
Je ne suis pas inventeur moi-même. J'aimerais ça cependant.
Oui, ben, on aimerait tout ça. Et d'ailleurs, je vous entendais dire tout à l'heure, vous disiez, bon, sur, par exemple, 100 inventions brevetées, il y en a une seule qui va être un jour commercialisée, etc. Ici, on part du principe que sur les 100 inventions du départ, il y en a peut-être 10 qui sont bonnes.
Oui.
Par exemple. Et de ces 10-là, il y en a une seule qui est commercialisée. Moi, je trouve que c'est un frein énorme pour une société. Si ces 10 inventions-là sont pertinentes et intéressantes, là, ben, est-ce que le rôle de l'État, ou est-ce que l'État intervient pas là-dedans pour aider ces gens-là à commercialiser leur idée puis à faire avancer la société?
Non, pas vraiment. Bon, y a des petites aides. Petite précision d'abord. Quand on obtient un brevet, c'est parce que l'idée est bonne. Okay? Mm-hmm. On n'avait pas un brevet pour des idées farfelues ou pour des machines farfelues.
C'est l'État qui décide, ce sont les fonctionnaires qui décident?
Ah oui, ben, y a toute une étude qui est faite. Hein? Il faut revendiquer des choses originales, différentes.
C'est l'État qui reçoit ça, là. C'est qui juge?
C'est le bureau des brevets.
Sont eux qui jugent si c'est pertinent de donner un brevet.
Il y a des spécialistes qui examinent ça. Mm-hmm. Et, par exemple,
pour fédéral, ça.
Au Canada, ben, aux États-Unis aussi, c'est fédéral.
Oui, okay.
C'est un bureau spécialisé là-dedans. Il est à Gatineau maintenant, là, c'est-à-dire autrefois Hull.
Ouais.
Et il faut donc prouver non seulement que c'est nouveau, mais que c'est d'intérêt. Okay? Puis que ça marche. Okay? Donc, on ne peut pas breveter n'importe quoi. Et aux États-Unis, le système est tel que il y a des ce n'est pas des conseillers en brevets, mais ceux qui étudient les brevets, surtout les brevets là, assez complexes, assez révolutionnaires, là, ils vont vraiment faire des études physiques, etc., des calculs, ils vont refaire les calculs pour être certain que ça marche. Là. C'est pas gratuit, puis c'est pas le produit de l'imagination, puis qui n'est pas applicable. Hein. Ce qui fait qu'aux États-Unis, quand l'inventeur avec lequel je travaille, M. Saint-Hilaire, a soumis ses projets, il y en a qui ont vu que c'est tellement intéressant qu'il a eu son brevet en un temps record. Parce qu'ils ont poussé l'affaire, ils ont vu que c'était génial. Okay? Mais, normalement, les fonctionnaires ne font pas ça. Mais dans certains cas, là, ça arrive. Mais surtout, il y a un gros problème, c'est que un inventeur individuel qui a une idée géniale, il se trouve à essayer de vouloir profiter des programmes de l'État. Parce que le gouvernement canadien a des programmes pour aider.
Avec raison, étant donné.
Ah oui, le PARI, entre autres, le gouvernement fédéral, le PARI, le programme d'aide au développement technologique et puis il y en a d'autres qui s'en viennent dans le domaine de l'environnement et tout ça. Mais l'inventaire individuel a toujours de gros compétiteurs, que sont les institutions de l'État. Les universités, hein, les centres de recherche financés par l'État.
Ah, d'accord.
Et ces gens-là, ils sont payés par l'État pour aller chercher des subventions pour leurs inventions. Alors là, évidemment, eux autres n'ont pas de risque. Hein. Ils sont déjà payés, ils ont un salaire, des revenus, puis tandis que l'inventeur individuel se trouve à faire face à tout un système de lobby institutionnel qui fait qu'il arrive plus que deuxième, là, il arrive dernier là-dedans, là, lui.
Mm-hmm.
Alors, c'est déjà une deuxième marche à monter, puis c'est plusieurs n'y arrivent pas.
Bon, non, la question, c'est est-ce que l'État aide les bonnes idées? Est-ce qu'il y a des subventions qui viennent? Est-ce que l'État est-elle inerte là-dedans ou s'il est actif?
Actuellement, l'État est généralement passif. OK? Il n'aide pas un inventeur, si génial soit-il, à mener son processus.
Est-ce qu'il met des bois dans les roues? Du bois dans les roues?
Ben, on vient de le dire un petit peu directement. C'est pas une volonté affirmée d'empêcher les inventeurs d'inventer et de leur compliquer la vie. C'est dans votre choix.
Mais il aimerait mieux qu'ils passent par les universités et les centres de recherche.
Ben, c'est pas qu'il aimerait mieux que, mais c'est le fait est que les centres de recherche, les universités ont des moyens considérables que n'ont pas les individus.
Alors, tant mieux pour ces organismes-là.
Oui,
moi, je sais qu'un individu ne peut pas passer.
Mais il faudrait des programmes spéciaux pour les individus.
Ah bon?
Okay?
Ah bon, bon.
Ce que à peu près aucun État a. Mais il y a des choses que l'État pourrait faire, par exemple. C'est avoir un programme, en quelque part, qui est à l'affût des nouvelles idées, surtout quand ce sont des idées majeures. Okay? Et là, ensuite de ça, pouvoir aiguiller ces personnes-là et ensuite leur offrir un programme d'aide pour chacune des étapes. Il ne faut jamais arriver avec un programme global qui dit « Ah, ben votre idée est géniale, on met 1 million à votre disposition. » Non, 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 non. On commence, on va d'abord vous aider à faire votre prototype. On va vous aider à breveter, etc. Puis, petit à petit, on va peut-être arriver à un programme d'1 million. Mais à terme seulement, parce qu'il faut toujours s'assurer que l'invention est valable. En France, il y a des histoires après qu'Adabran se sont produites. Par exemple, il y a un gars qui est arrivé à un ministère et a dit, moi, j'ai inventé un système qu'on met sur les avions en réaction, puis ça détecte s'il y a du pétrole en dessous. Hein? Un avion en réaction passe, ça a été l'histoire, le scandale des avions renifleurs. Mais c'était farfelu. Mais le gouvernement s'est fait embobiner là-dedans.
Oui, mais ça peut arriver à l'occasion. On peut faire une erreur.
Oui, d'accord.
On n'est pas pour condamner le système pour une seule erreur.
Tout à fait. Mais ce qu'il faut, c'est commencer par étapes. OK? On commence, on voit ce que donne le prototype, on voit le brevet, etc. Et il y a une idée qui est très intéressante, qui est celle, l'exemple de la Pologne. La Pologne, c'est pas un pays très riche. Et eux autres ont décidé là-bas d'aider les inventeurs en mettant à la charge de l'État, le processus de brevetage.
Ah, oh, ben, mais c'est intéressant.
Ben oui, ça soulage l'inventeur de tout...
Puis que l'inventeur n'est pas habile là-dedans, généralement.
C'est ça, c'est ça. Puis ça garde l'invention localement. Les avantages vont rester en Pologne.
Est-ce que ça réussit?
Ben, ça réussit. Bon, je ne suis pas au courant là, de tous les développements. Hein. Mais c'est une bonne idée parce que ça coûte pas très cher pour un État de faire ça. C'est bon.
Donc, l'État accompagne vraiment l'inventeur.
C'est ça. Et à partir de là, l'État pourrait dire, écoutez, je vous ai aidé, donc je vais avoir une partie des retombées.
Ben, il y a une logique. Il y a une certaine logique.
Ce serait logique, quoi. Mais ici, on ne fait pas ça.
Parce que l'objectif de l'État, au-delà d'aider l'inventeur, c'est d'aider la société. Cette invention-là... C'est avancer la société. Là. C'est tout un bon coup, ça.
C'est-à-dire que
ça amène des retours d'impôts. Hein. Ça crée des emplois.
Ben oui,
c'est payant, le gouvernement. Le gouvernement ne devrait pas investir quand c'est pas payant. C'est payant.
C'est-à-dire que l'invention, c'est critique aujourd'hui dans les économies modernes. Parce que c'est l'invention locale qui fait que l'industrie va se développer localement. Nous autres, on est au Québec, au Canada... ont des coureurs après les investissements étrangers, venez donc vous installer chez nous, etc.
Mm-hmm.
Puis là, on se retrouve avec des problèmes comme General Motors à Sainte-Thérèse.
Qui décide de partir un jour.
Exactement.
On n'a aucun contrôle là-dessus.
Ils ont eu des gros prêts, 200 millions de prêts, puis là, à un moment donné, ils décident de fermer boutique, et puis nous, on se retrouve avec rien. Okay? Si on avait investi dans une invention majeure, okay, puis on l'avait développée chez nous, on avait ajouté de la valeur à cette invention-là. Ensuite, on peut la vendre dans le monde entier au prix qu'on veut. C'est-à-dire que même si c'est cher, c'est quand même une bonne affaire pour un pays étranger d'acheter tel ou tel produit parce que c'est un bon produit et il rend un service énorme qu'on ne trouve pas ailleurs. Regardez l'industrie allemande. Elle fonctionne très bien, l'industrie allemande.
On revient, gardez votre idée, on va aller à la pause publicitaire immédiatement et on revient avec quelques exemples.
D'accord.
Ici Mathieu Fox, vous écoutez Radio Ville Marie.
Est-il vraiment nécessaire de payer cher pour de la qualité? Le Centre funéraire Ville Marie peut vous aider dans vos démarches funéraires. Gens à faible revenu, assistés sociaux, peu importe vos moyens financiers, nous pouvons vous permettre de rendre le dernier hommage à vos proches. Qui que vous soyez, vous avez droit à ce qu'il y a de mieux. Centre funéraire Ville-Marie, 514-526-9064. 514-526-9064. Le Centre funéraire Ville-Marie est un partenaire ambassadeur de Radio Ville-Marie.
sortez de vos pantoufles en béton. Richard Aubé parcourt le Québec dans le but d'inciter les gens à sortir du conformisme collectif. Cet homme passionné vous invite à une conférence qu'il donnera le jeudi 24 mai à 14h à la salle de conférence de Radio-Ville-Marie située au 4020 Saint-Amboise, 699 à proximité du métro Saint-Henri. Sous le thème « L'attitude, c'est contagieux », Richard Aubé vous communiquera sa fougue, sa touche philosophique et son style unique qui sauront contribuer à votre bien-être et à votre accomplissement personnel. Réservez tôt, car les places sont limitées. Téléphonez dès maintenant à Radio-Ville-Marie au 514-382-3913 ou sans frais 1-877-668-6601. Un don de $20 est suggéré. C'est un coup de cœur pour Radio-Ville-Marie et n'oubliez pas que donner, c'est recevoir. Notre monde bouge sans cesse. Radio-Ville-Marie est là pour vous. Votre radio vous informe sur ce qui fait l'actualité. C'est une fenêtre sur la vie qui bat ici et ailleurs. Grâce à votre générosité, Radio-Ville-Marie est devenue un acteur important du Québec en devenir. Faites comme des centaines d'auditeurs. Participez activement au développement de votre média. 514-382-3913, poste 238. Ou sans frais, 1-877-668-6601. Tout don est déductible des impôts. Merci d'être là.
Radio-Ville-Marie, une note de bonheur.
91,3 FM, Montréal. 100,3 FM, Sherbrooke.
Cette émission vous est présentée par InfoPratique, la compagnie pour non-voyants et malvoyants.
Vous écoutez C'est la vie sur les ondes de Radio-Ville-Marie, en compagnie de Charles-Hugo Boucher et de Jean Campeau.
Voilà, nous sommes de retour après la pause commerciale. Et ça, ça se négocie pas. Hein. C'est comme sur tous les autres médias, que ce soit la télé ou la radio. Quand non, c'est la pause commerciale, c'est la pause commerciale. Et donc, je m'excuse de vous avoir interrompu, monsieur Rémillard. Vous commenciez à nous expliquer un exemple de l'Allemagne. Et là, ça me faisait rire parce que nous, dans le fond, au Québec, tu sais... On a-tu des exemples comme ça où on est né pour un petit pain, tu sais, puis on les pose pas, ça.
On est né pour la boulangerie.
Là.
Non, mais c'est plus vrai, ça. Avec le Parti québécois, on était René pour un gâteau.
Ouais,
René Lévesque. C'est un gars que j'ai entendu il y a longtemps.
Là. Mais poursuivez votre exemple, allemand.
Le Québec est quand même un pays d'inventeurs, hein, faut pas se cacher. Nous avons du génie autant que les autres, sauf qu'il n'est pas exploité. Savez-vous, par exemple, que le combiné téléphonique, hein, ça a été inventé au Québec, ça?
Oui.
Ah, on n'a rien reçu pour ça, par exemple. Hein,
ouais.
Bon, vous avez des bombardiers qui ont inventé la motoneige, vous avez tout l'équipement de foresterie, ça a été inventé au Québec, mm-hmm. Mais ça a tout été racheté par des étrangers. Tout!
Pourquoi qu'on... Tout! Vous avez été... Pourquoi qu'on on donne comme... On est généreux en tout cas?
Peut-être que l'État, justement, n'accompagne pas l'inventaire. Peut-être que l'État, comme on disait en Pologne, si l'État prend une certaine participation à un certain avantage, si elle avait un intérêt, elle pourrait prendre... Et là, ça ferait plus fort. L'inventaire, c'est pas plus seul.
Mais on avait des tentatives sous le gouvernement libéral dans les années 60 avec la Société Générale de Financement qui a eu pour but d'essayer de conserver au Québec des entreprises.
Investissement Québec aussi a joué un certain rôle. Il faut, moi, je pensais surtout à Investissement Québec quand vous développiez tout à l'heure. C'est l'organisme, c'est la société d'État qui pourrait normalement accompagner un inventeur. Pourvu, évidemment, que l'invention semble bonne.
C'est ça.
C'est pas n'importe quoi.
C'est ça. Absolument, absolument.
Pour que ce soit rentable.
C'est pour ça, tout à l'heure, je voulais donner l'exemple de l'Allemagne.
Oui.
L'Allemagne est un pays qui vend des produits chers. OK? Mais elle les vend. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la fine pointe de la technologie.
Donc, qualité-prix.
Oui.
Un rapport qualité-prix est toujours bon.
On sait que quand on achète un produit allemand, ça va être solide. Puis ça va
mais non seulement ça, mais il y a effectivement quelque chose. Je donne des exemples. Volkswagen a été le premier à mettre sur le marché un moteur. Bon, ça, on peut faire 1200 km avec un réservoir de diesel.
Oui.
C'est
incroyable.
Ça dépend de la grosseur du réservoir.
Ouais, 60 litres à peu près.
Là, litres, bon.
Mais, Jean Coude, qui était à la station aussi, là, qui était encore... C'est ce qu'il faisait, quoi, 1200 km avec un plein.
Ouais.
Tu sais, mais j'étais les premiers, ça, qui ont sorti ça. Après ça, tout le monde a copié. En fait,
ouais.
Bon. Mais c'est ça, quand on a un bon système de recherche-développement, on peut vendre en fait des produits uniques au monde au prix qu'on veut, en fait, ou à peu près.
Ouais.
C'est ça. Donc, c'est ça qu'il faut faire.
Oui, à la portée des gens. Vous me parliez tout à l'heure de l'importance, ou en tout cas la formation d'une association de citoyens. Je n'ai pas très bien... Bon, je pense que vous allez devoir recommencer vos explications.
Oui. Ben, c'est que face au problème qu'un inventeur que je connais avait, nous avons décidé, un groupe de citoyens, en fait, de former une association pour aider l'inventeur. En fait, il faut dire que l'invention en question, c'est un moteur révolutionnaire qui va équiper éventuellement les voitures et tous les moteurs à piston, d'après des spécialistes, vont être remplacés par le moteur inventé au Québec, qui est un moteur qui tourne naturellement. Hein? Et c'est un moteur rotatif.
Mm-hmm.
Un peu comme pour ceux qui connaissent la mécanique automobile,
je vous demandais la Mazda RX-8 qui est un moteur
rotatif,
il y a des adeptes et des gens qui apprécient moins, là. C'est un moteur qui consomme quand même davantage qu'un moteur
habituel. C'est un moteur qui a beaucoup de coupe, qui a beaucoup de puissance dans un petit volume, donc c'est très intéressant. Mais l'invention québécoise de la quasi-turbine, c'est mieux.
Comment appelez-vous ça,
la quasi-turbine? C'est le nom technique. Parce que...
Quasi, ça veut dire presque turbine?
Exactement. Parce que ça a des caractéristiques qui sont très proches des turbines d'avion. Avec les avantages pas d'un rendement, mais de... Même à bas régime, ça marche très bien.
Ça, c'est une nouvelle invention québécoise.
Ah oui. Tandis qu'un moteur d'avion, une turbine, là, son gros problème, c'est qu'il est calculé pour des caractéristiques bien précises. Puis quand on tombe à l'extérieur des caractéristiques, l'efficacité tombe. Okay? Alors que la quasi-turbine a une efficacité constante. À bas régime ou à haut régime, ça va dépendre de ce que vous mettez dedans, puis vous allez avoir un rendement qui est proportionnel à ce que vous mettez dedans.
Je vous stoppe un peu parce que je voulais qu'on garde là, cette invention-là pour le dessert, donc pour le dernier quart de l'émission. Mais pour en revenir à votre association, c'est une association de gens qui donnent de l'argent, ça, ou de leur temps, ou du sport?
Bon, tout d'abord, notre association, ça s'appelle l'Association de promotion des usages de la quasi-turbine, APUQ. Actuellement, on a à peu près 1000 membres, mais c'est gratuit pour être membre. On ne paye pas. Okay. Un membre qui veut. D'une certaine façon, c'est le poids du nombre qui a une influence. C'est un peu comme une pétition, d'une certaine façon. Okay. Mm-hmm. Mais il y a une trentaine de personnes qui, elles, participent aux activités. Semaine après semaine, mois après mois, on a fait des démonstrations dans des écoles, des universités, même des écoles primaires. C'est incroyable, hein? Puis, on en a fait, je sais pas, une cinquantaine de démonstrations à l'École nationale d'aérotechnique. On est allé
c'est votre association, là.
C'est toujours l'association.
Qui est membre de ça? Des physiciens, des inventeurs, des monsieur et madame tout le monde?
Vraiment, monsieur et madame tout le monde, c'est le cas de le dire. Moi, j'avais pas de vocation à m'impliquer dans une telle association, mais à la suite d'une émission à Radio Ville-Marie, il y a 7 ans, en fait, on a parlé d'une voiture à air comprimé en France. Je suis allé voir, je suis revenu, puis on voulait former une association pour faire venir la voiture.
Mm-hmm.
Entre-temps, on a écouté l'émission Découverte à Radio-Canada qui parlait du moteur rotatif inventé au Québec.
Le moteur roue moteur, non?
Non, le moteur rotatif, la quasi-turbine.
Oui, okay? D'accord.
Puis là, on s'est dit, nous autres, notre groupe, est-ce qu'on va du côté des Français ou bien est-ce qu'on va du côté de l'inventeur québécois?
Mm-hmm.
Et finalement, on a opté pour l'invention québécoise et avec l'intention de la jumeler éventuellement avec l'entreprise française. Et c'est comme ça qu'est née finalement notre association. Ce sont vraiment des citoyens qui se sont mis ensemble parce que à la suite de l'émission de Radio-Canada, on a dit, il faut faire quelque chose.
OK. Qu'est-ce que ça donne?
Que ça donne? Ben, d'abord, ça donne que ça a soulagé l'inventeur de, d'une bonne partie de son travail de promotion.
Ah bon?
Okay? Ça a soulagé l'inventeur du travail d'intégration dans des usages comme nous autres. On a une petite voiture, on a deux go-karts, et ça permet de donner une visibilité à l'invention qu'elle n'aurait pas autrement. La photo de notre voiture, elle est en Chine maintenant, hein? Mm-hmm. Elle est en Suède, elle est en Europe, elle est partout, cette petite voiture-là, uniquement parce qu'on a mis un moteur original dedans.
Je reviens à ma question, elle est partout, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on avance?
Ah bien, certainement. Pendant ce temps-là, l'inventeur, lui, il a travaillé sur de plus grosses machines. Hein? Là, maintenant, on a commencé avec des petites machines de 50-75 cc. Là, on est rendu avec des moteurs de 600 cc. Bon. Et, en même temps, il travaille sur la version combustion. Mais si on n'avait pas été là, il n'aurait pas pu se consacrer à tout.
Je sais, même bien qu'on est partout dans le monde. Ouais. Est-ce que ça apporte de l'argent? Ça apporte.
Pas encore.
Ça coûte de l'argent d'être partout.
Mais pas encore. Là, on n'est pas en phase de production. On est en phase de notoriété, de crédibilisation.
Qu'est-ce que ça donne? Tant qu'on n'a pas fini l'invention, tant qu'elle n'est pas à point, qu'est-ce que ça donne d'être partout dans le monde, est-ce qu'on n'aurait pas consacré toute notre énergie à mettre notre invention à point et dans la suite, à être partout dans le monde?
C'est-à-dire que il y a des jeux d'essais-réaction, hein, qui sont utiles. Si un inventeur peut avoir une aide qui donne de la notoriété à l'invention, ensuite, ça lui permet d'accéder, par exemple, plus facilement au gouvernement, aux institutions gouvernementales, et il arrive avec un poids qui est supérieur à celui de sa propre invention. Mm-hmm. Sais? Parce que on a comme une crédibilisation auprès de l'électorat, auprès du peuple, puis qui va demander des comptes à l'État. Pourquoi est-ce que vous, l'État, vous ne faites rien, par exemple? Sais? Là, on peut poser la question aux politiciens même, hein? Étant donné que c'est eux qui devraient mettre sur pied des programmes qui aident les inventeurs individuels, et notamment cette invention-là. Vous comprenez? L'autre possibilité, quand un inventeur est mal pris, hein, c'est de dire, j'arrête mes recherches, je vends. Mm-hmm. Je vends à qui? Je vends à une grosse entreprise qui va me donner mon million, hein, peut-être plus, peut-être moins, etc., et qui va peut-être tabletter l'invention parce que ça entre en compétition avec ses propres produits, puis etc., ou qui va l'utiliser pour son usage propre. Okay? Mais là, les autres compagnies qui pourraient utiliser la même invention ne sont plus dans le circuit.
Elles l'ont pour 20 ans.
Exactement. Ouais. Alors que, en plus de ça, l'invention, dans ce cas-là, il y a des bonnes chances qu'elle s'en aille à l'extérieur du pays. Que ce soit des Américains, des Européens, des Chinois, des Indiens, n'importe qui achète finalement.
Ou qui copie,
mais là, on n'est pas dans ce cas de figure-là, on est dans le cas où ils vendent. Okay? Mm-hmm. Et une grosse compagnie qui achète a les moyens ensuite de défendre les brevets. Elle va le faire, c'est sûr. Bon. Mais c'est pas ça qu'on veut, nous. Nous, on a formé une association pour que, autant que possible, l'invention se perfectionne au Québec et qu'une bonne partie de la fabrication ultérieure se fasse au Québec et au Canada.
Ah, okay? c'est très positif.
Absolument, mais c'est ce qu'on veut.
Bon, mais que vous allez y arriver?
On pense que oui.
C'est optimiste là-dessus.
Écoutez, on a une notoriété de plus en plus grande. Il y a des revues top niveau mondial dans le domaine des moteurs d'auto, entre autres, qui ont publié des articles pas plus tard que l'année dernière. Même déjà en l'an 2002, il y avait des revues anglaises, américaines, qui appelaient la quasi-turbine le moteur du 21e siècle.
OK, mais je vous arrête. Moi, je ne passe pas un sceptique, là. Mm. Si votre idée est si bonne que ça, comment ça se fait qu'il n'y a pas qu'un important constructeur d'automobile américain, japonais ou coréen qui est venu faire une offre qui aurait eu de l'allure pour acheter votre idée?
Non.
Parce qu'il y a un moment donné qu'on ne peut pas blâmer l'individu ou refuser un certain montant d'argent.
Écoutez, une grosse entreprise, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Quand une grosse entreprise est au courant d'une invention, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va mettre un petit comité d'ingénieurs ou de physiciens à travailler sur cette invention-là, pour voir d'abord si c'est bon, et surtout pour voir s'ils peuvent faire la même chose, mais par leurs propres moyens et d'une façon différente. Comme ça, ils n'auront pas à payer l'inventeur.
Je vous suis.
Okay? Et c'est ce que tout le monde fait. Il n'est pas impossible, on est même pas mal certain, qu'il y a des recherches qui se font sur la quasi-turbine, par BMW, on pense, par General Motors, on le pense aussi, et par d'autres. Mais on n'a aucune certitude, mais on a des indices. Est-ce que ces gens-là vont réussir à trouver une autre façon de fabriquer des quasi-turbines, d'appliquer les principes, puis qui contourneraient l'inventeur? On appelle ça d'ailleurs des comités de contournement. Hein? C'est le terme technique, là. Les entreprises mettent sur pied un comité de contournement. Habituellement, quand l'inventeur est très brillant, hein, il a déjà vu des choses que les autres n'ont pas vues. Et que ça demande beaucoup, beaucoup de travail, puis ça coûte cher quand on paye des savants et des ingénieurs à 100 000 piastres par année. Donc, ça coûte une fortune aux entreprises. Je sais qu'il y a des entreprises allemandes qui ont essayé de contourner. Ils ont travaillé 6 mois, puis finalement, ils ont abandonné. Alors, on a la chance ici là d'avoir un inventeur qui est vraiment top niveau, qui connaît le domaine de l'invention et qui ne brevette pas tout de suite. Il brevette par étapes. Et il garde toujours des secrets dans sa poche. Sauf que même si quelqu'un prend les brevets, essaie de les appliquer, il va frapper des murs à tout bout de champ. Puis,
votre invention est si compliquée que ça.
C'est-à-dire
pas facile à copier.
C'est ça.
Vraiment, là. Vraiment, on fait face à un être, M. Sinclair, vraiment supérieur.
Je crois que du point de vue de la physique et de la technique, il est pas mal bon. Mais écoutez, c'est un gars qui non seulement a fait son cours de physique nucléaire, il a fait son cours à Polytechnique.
Oui,
en plus de ça, il a fait son cours de moteur avion à l'École nationale d'aérotechnique.
Oui, je vous crois, puis je vous souhaite que ce soit correct. Vous comprendrez qu'on demeure quand même sceptique un peu, vis-à-vis les grands pouvoirs d'argent d'ailleurs.
Oui.
Écoutez, on va aller en musique, puis on revient au retour avec l'invention. Bon, on va garder quelques secrets, mais on va quand même dire c'est quoi la quasi-turbine. On revient dans une minute.
D'accord.
écoutez C'est la vie sur les ondes de Radio Ville-Marie en compagnie de Charles-Hugo Boucher et de Jean Campeau.
On démarre notre dernier quart d'émission. Ça va très vite. Monsieur Rémillard, on voulait pas terminer l'émission avant de parler de cette invention-là qui est je sais plus si on doit dire le moteur rotatif ou la quasi-turbine.
En fait, la quasi-turbine, c'est un cas de moteur rotatif.
Okay.
À opposition à un moteur.
À piston.
Conventionnel.
C'est ça. C'est ce qu'on a dans nos voitures actuellement, ce sont des moteurs à piston. Okay? Et l'efficacité est très très faible, hein? C'est l'ordre de 15 à 20% un moteur à piston. Tout le reste est perdu en chaleur.
Mais il y en a eu plein d'autres moteurs qui ont été inventés, électriques, puis ci, puis ça. Puis pourquoi Monsieur Campeau, vous me parliez d'un
moteur à roue de Pierre Couture,
bien sûr,
qui travaillait à Hydro-Québec. Moi, je suspecte qu'on n'est pas allé plus loin. Avec Hydro-Québec, c'est quand même pas rien.
Bon, écoutez. Moi, je suis assez près du docteur Couture et j'ai eu quelques échos assez éclairants là-dessus. Tout d'abord, le docteur Couture était...
C'est un docteur en physique, lui.
C'est un physicien de très, très haut niveau.
Oui, son doctorat, là, c'est...
Oui, il travaillait...
Exactement,
en physique, ouais, c'est ça. Lui, il travaillait, en fait, sur l'énergie des tokamaks, là.
La fusion de terre. Moi, ça fait son marché.
C'est-à-dire que... Le temps Couture était à un an et demi d'avoir un produit fini. Okay? Il avait déjà mis au point des moteurs qui pouvaient servir aussi de générateur avec une efficacité de 98%. Il allait passer à 99%. Et il y avait un système de contrôle du moteur pour l'auto. À basse vitesse, ça marchait très, très bien. Mais là, il restait à peaufiner les contrôleurs, etc., pour arriver à contrôler l'auto à haute vitesse. Ça, c'est une chose.
Mm-hmm.
Il y avait aussi quelques améliorations à faire sur le moteur roue lui-même pour monter son efficacité, puis bon. Il restait un an et demi de travail à faire. Et à l'intérieur d'Hydro-Québec, d'après ce que j'ai su de la part d'un député à l'époque, il y a eu des individus qui ont fait double jeu, en fait. Pour des intérêts.
On se met qui aurait fait double jeu, parce qu'on n'est pas sûr.
C'est bien ce que je dis, qui aurait fait double jeu et qui avait pour mission de saboter le moteur roue, d'empêcher. Parce que le moteur roue, s'il était sur le marché maintenant, on ne parlait plus de problèmes de pollution au gaz à effet de serre.
C'est
90% des déplacements qui auraient été couverts par l'électricité.
Aussi efficace, aussi rapide qu'un moteur à essence?
Plus. Il y avait eu une émission à découverte.
Oui. C'est-à-dire que le moteur idéal pour la propulsion des véhicules, c'est le moteur électrique.
Mais c'est trop tard.
Il est trop tard pour nous autres, le Québec. Maintenant, c'est BMW qui travaille là-dessus, Mitsubishi au Japon, Toyota, l'armée américaine. Et incessamment, là, ils vont sortir ça dans le domaine public.
Décevant.
Mais on a perdu notre avance de 15 ans. Et nous, justement, on a tiré les leçons de ce qui est arrivé au moteur roue. Et c'est pour ça que l'inventeur de la quasi-turbine ne veut pas être dépendant directement à pieds et mains liés, là, comme le docteur Couture l'est actuellement. Il ne peut même pas parler à un politicien de ses problèmes. Okay? Il y a des interdits formels faits par Hydro-Québec au docteur Couture de parler de quoi que ce soit.
Pourquoi? Avec quoi il le tienne? Il paye d'argent, quoi?
Ben, il est employé, lui.
Ah, il est employé, Hydro-Québec.
C'est ça. Donc, il le tienne. Alors, mais nous autres, on veut éviter ça, et c'est pour ça qu'on tient à une certaine autonomie. Il serait normal que l'État aide l'inventeur, ne serait-ce que comme font les États-Unis, par exemple, ils achètent des avions de Boeing avant même qu'ils soient en production. Hein? Pourquoi l'État du Québec n'achèterait pas certains produits comme ça?
Ça pourrait être un certain partenaire, profiter aussi des choses. Maintenant, parlez-nous, là, on est rendu.
Il vous reste peut-être une ou deux minutes. Là,
oui.
Votre salon technologique, là.
Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout dit sur la quasi-turbine. La meilleure façon pour les gens qui s'intéressent un peu au sujet, c'est de venir nous voir la semaine prochaine, les 14, 15... Attendez, je les ai ici, là.
Okay?
Donc, on sera au Palais des Congrès. C'est le plus gros salon mondial consacré aux turbines. Il y en a un autre en Allemagne cet automne. Mais donc, il y aura Pratt & Whitney, Rolls-Royce, General Electric et la PUC, la quasi-turbine. Donc, on sera au kiosque 1007 le mardi et le mercredi de la semaine prochaine de midi à 18h.
Et le mardi et le mercredi, c'est le 15 et le 16.
C'est ça. Mais... Et le jeudi 17, donc de 11h30 à 14h30. Et c'est gratuit.
Vous allez avoir vos moteurs qui vont être là en démonstration.
Oui, on va avoir trois moteurs en démo.
Pourriez-vous répéter les dates, là, si monsieur?
Oui, certainement. Donc, mardi et mercredi, 15 et 16 mai, de midi à 18h. Et jeudi 17 mai, de 11h30 à 14h30.
Gratuitement, au salon de l'ASME.
American Society of Mechanical Engineers, et qui...
au Palais des Congrès.
Au Palais des Congrès, c'est ça.
D'allez-y aussi par l'émission que vous vouliez remercier deux personnes qui vous ont
aidé. Ah ben oui, là. Parce que si notre association peut être présente à cette activité absolument extraordinaire, c'est grâce à l'aide que Mme la députée Lanquin-Étier, qui est
l'ancienne députée de Clémagie,
ben oui, que vous connaissez bien,
oui.
Et qui nous a obtenu 2 000 $ du gouvernement du Québec,
oui.
Et à l'aide aussi du député du Bloc québécois, Marcel Lussier, qui lui nous a obtenu une aide d'à peu près 1 000 $.
Ah ben, c'est très habile ça, une aide du Québec puis une aide du fédéral en même temps.
Oui, c'est ça, exactement.
C'est l'équilibre.
Exactement.
Merci beaucoup, M. Rémillard, de vous être déplacé et de nous parler des préoccupations des inventeurs québécois.
Ça nous a fait énormément plaisir, M. Bouchard et M. Campeau.
Merci à M. Campeau. Les gens à la technique et à la recherche musicale, dans un instant, suivra le bulletin Radio Vatican. Et nous, on se dit à la semaine prochaine.